Merci Anne-Lorraine et merci pour l'invitation. Alors je voudrais évoquer deux articles de 1932. Moi je suis très discipliné, on a dit 1932. Deux articles de 1932 par deux auteurs qui écriront l'année suivante et celle d'après dans Esprit des articles importants dans d'autres perspectives. Alors ces deux auteurs sont deux jeunes philosophes que l'on considère aujourd'hui comme deux représentants majeurs de la philosophie française, marquant en particulier dans leur relation à la phénoménologie qu'ils ont l'un et l'autre présenté au lecteur français, avant de la développer, d'ailleurs de s'en écarter partiellement, dans des directions très différentes, à savoir donc Emmanuel Lévinas et Jean Cavaillès. Alors, avant de détailler un peu leurs articles de 1932, puis leurs articles d'esprit, notons que Lévinas et Cavaillès se sont rencontrés quelques années plus tôt, aux fameuses rencontres de Davos, en 1929, au cours desquelles Ernst Cassirer et Martin Heidegger opposent leur vision de Kant et plus généralement de la philosophie. Cavaillès publie d'ailleurs un long résumé de ce débat. Dans une lettre à sa sœur, Cavaillès mentionne, je cite, un défenseur de Husserl et Heidegger, un Lituanien, qui va publier un article sur Husserl dans la revue philosophique. Ce Lituanien, défenseur de Husserl et de Heidegger, c'est bien sûr Lévinas, qui est encore en effet de nationalité lituanienne et obtiendra la nationalité française peu après. On sait qu'à Davos, face à l'affrontement Cassirer-Heidegger, Lévinas est tout à fait du côté de Heidegger, et un soir, il se livre avec un autre étudiant à une imitation comique du débat, où il endosse lui-même le rôle de Cassirer en se poudrant les cheveux de blanc et en le présentant comme quelqu'un d'assez dépassé et désolé par les attaques brillantes de son adversaire. Dans sa perception des mouvements d'idées de l'époque, dans la perception par Lévinas des mouvements d'idées de l'époque, Cassirer est le représentant de la haute culture éclairée, mais en quelque sorte éthérée, arrimée à une vision idéaliste de la raison, la nouveauté révolutionnaire, la vie de la pensée, l'existence saisie à partir d'elle-même dans sa nudité ontologique ou ontique et sa finitude sont représentées ou captées par Heidegger, dont Lévinas a été un auditeur ébloui à Fribourg et un lecteur foudroyé avec la parution de Sein und Zeit en 1927. Après coup, Lévinas regrettera cette moquerie envers Cassirer, défenseur des Lumières, qui était aussi et par hasard un défenseur de la République de Weimar, et il tempérera toujours son admiration de Heidegger, sans renier néanmoins le sentiment que quelque chose de décisif se jouait dans la pensée de Heidegger, mais il parle toujours à la fois ensuite de son admiration et de sa honte pour cette admiration. Il garde l'admiration, mais il éprouve en même temps une honte pour cette admiration. En 1932, donc, Lévinas publie « Martin Heidegger et l'ontologie », qui sera repris dans le volume en découvrant l'existence avec Husserl et Heidegger. C'est en un sens une simple exposition admirative des grands axes du maître-livre de Heidegger, Être et Temps, paru 5 ans plus tôt, donc le temps et la temporalisation, l'être qui se donne et se dérobe à travers les étangs, la compréhension des signes, les ustensiles comme modalité d'usage des choses que leur approche théorique occulte et qui nous occulte en même temps leur présence. Cette présentation est d'une parfaite clarté et n'exprime quasiment aucune réserve à l'égard de ce qui est exposé, sauf une interrogation finale qui annonce la profonde mise en cause par Lévinas du primat de la question de l'être et de la compréhension, à quoi Lévinas situera le primat de la relation éthique à l'autre. Je cite ces lignes. « Le rapport de l'homme avec l'être est-il uniquement ontologie ?» demande ainsi la dernière ligne. « Compréhension ou compréhension inextricablement mêlée à de l'incompréhension, domination de l'être sur nous au sein même de notre domination sur l'être, autrement dit, est-ce en termes de domination que s'accomplit l'existence ? L'homme, en tant que créature ou en tant qu'être sexué, n'entretient-il pas avec l'être une autre relation que celle de la puissance sur lui ou de l'esclavage, d'activité ou de passivité ? Une citation. Donc il y a déjà, dans ce texte de 32 de Lévinas, une certaine impression que Heidegger oscille entre une forme d'exaltation de l'activité ou de la puissance, ce que Lévinas désignera plus tard comme le pathos héroïque de Sein und Zeit, et une sorte d'abdication, d'esclavage à l'égard de l'être, qui se dispenserait sur un mode qui ne laisse à l'homme qu'une position de récepteur ou de dépositaire passif, traversé par un destin hors de prise. Explorer d'autres relations à l'être que l'activité dominatrice ou la passivité radicale, C'est ce que tentera en propre Lévinas à travers son intérêt pour, il l'annonce ici, l'être sexué et l'éros, le désir, un désir qui ne prend pas la forme d'une volonté de dominer ou d'être dominé, mais un rapport à la jouissance de l'autre. Quant au registre de la créature, il pointe vers une phénoménologie de la dépendance à l'égard des nourritures, de ce que Lévinas appelle les nourritures, le vivre d'eux, mais aussi sans doute vers la trace d'une création, l'apparition de l'infini dans l'autre, au-delà de l'être. Tous ces thèmes seront bien sûr au centre de l'explication critique avec Heidegger, à travers laquelle Lévinas a construit sa propre pensée dans la distance toujours plus marquée vis-à-vis de l'indifférence éthique de l'ontologie. Si Lévinas, en plus de sa thèse sur l'intuition chez Husserl et de sa traduction des méditations cartésiennes, publie plusieurs articles d'introduction à la phénoménologie et à Heidegger dans des revues spécialisées de philosophie, que publie-t-il dans Esprit donc en novembre 1934, on n'est pas très loin quand même. Eh bien, un article politique devenu très fameux, intitulé « Philosophie de l'hitlérisme ». Article politique, mais de cette sorte de politique qui a une échappée non seulement culturelle, mais spirituelle, voire métaphysique, qui est typique d'Esprit à ses commencements, en ce sens. C'est politique et spirituel en même temps, mais avec ce souci qui était celui de Mounier, assez frappant dans cette phrase de Mounier, « dissocier le spirituel du réactionnaire ». Dissocier le spirituel du réactionnaire. Alors le choix du terme philosophie pour qualifier le nazisme, l'hitlérisme, a été discuté, controversé et a inspiré un certain remords à Lévinas lui-même, qui n'aurait sûrement pas crédité après 1945 le nazisme d'être, certes comme il l'écrit à l'époque, effroyablement dangereux, mais philosophiquement intéressant, comme il l'écrivait en 1934. Néanmoins, même en 1934, ça n'implique aucune complaisance envers cette doctrine. Citons les dernières lignes. Peut-être avons-nous réussi à montrer que le racisme ne s'oppose pas seulement à tel ou tel point particulier de la civilisation chrétienne ou libérale. Ce n'est pas tel ou tel dogme de démocratie, de parlementarisme, de régime dictatorial ou de politique religieuse qui est en cause. C'est l'humanité même de l'homme. On saurait être plus clair. Parler de philosophie était alors pour Lévinas une manière de situer l'hitlérisme au-delà d'une simple idéologie ou d'une flambée politique qui n'aurait aucune racine intellectuelle ou civilisationnelle. Un autre article de 1933, publié en lituanien et qui a été cité tout à l'heure, traduit en français dans la revue Cité puis dans un petit volume aux éditions Rivage, confrontait la spiritualité allemande et la spiritualité française. Le thème qui court d'un article à l'autre est l'idée d'une tendance de la spiritualité allemande à fonder l'esprit dans les forces de vie au sens biologique du terme. Les forces élémentaires, écrit Lévinas, ou, selon un terme qui revient avec insistance, à river l'esprit au corps, à river l'esprit au sol, à river l'esprit au sang. Une certaine compréhension allemande de l'esprit le tient pour indissociable du corps et du lieu auquel il est rivé, là où note Lévinas le marxisme, autre matérialisme, qui attache également l'esprit au corps et aux forces matérielles, ne renonce pas pour autant à un certain horizon d'universalité, de détachement, de libération. La conséquence politique radicale de l'idée d'un esprit entièrement livré au bios et rivé au corps est, bien sûr, le racisme. Quel est le lien, dira-t-on, entre l'article de 1932 sur Heidegger et l'article de 1934 sur la philosophie de l'hitlérisme ? Le lien est tracé dans l'article, chez non manquant, de 1933 sur la spiritualité allemande. On l'a lu tout à l'heure, Lévinas remarque que la philosophie existentielle de Heidegger jouit d'une influence particulièrement forte sur la jeunesse universitaire allemande. Heidegger, en parlant de réalité spirituelle, n'utilise pas le mot conscience. Tout ce qu'on a entendu avec ce passage très saisissant, les Allemands croient que la douleur est plus réelle que la raison qui veut étouffer la douleur et que la vérité ne sort pas de l'observation impartiale des idées éternelles mais qu'elle est un cri effrayant de l'existence en lutte pour sa survie. De son côté, Cavaillès s'est aussi passionné pour la phénoménologie, mais plutôt sur le versant des idéalités mathématiques approchées par Husserl, qu'il discutera sur un mode décisif dans son essai sur la logique et la théorie de la science. Il discutera d'ailleurs avec Albert Lotman d'un possible usage de Heidegger pour repenser le statut des objets mathématiques, le statut platonicien des objets mathématiques, mais Heidegger n'occupe pas une place centrale dans sa réflexion, même si d'ailleurs son compte-rendu des débats de Davos est assez quand même nettement favorable à Heidegger. D'ailleurs, il parle d'une véritable joie intellectuelle à entendre Heidegger, Cavaillès lui-même, une véritable joie intellectuelle. C'est néanmoins un autre aspect de l'Allemagne spirituelle qu'il évoque de son côté dans son article de 1932. Le jeune protestant Cavaillès avait obtenu du comité Rockefeller une bourse d'une année pour mener un travail sur les mouvements de jeunesse allemands et les évolutions des églises allemandes, travail dont il rencontre donc en 1932 dans les annales de l'Université de Paris. Et l'article dans Esprit suivra bientôt là aussi, et là aussi avec une nette accentuation politique. Notons que, alors qu'il était élève, donc ici même, à l'ENS, au milieu des années 20, le jeune Cavaillès avait assisté à une conférence d'Emmanuel Mounier organisée par le groupe chrétien. L'article d'Esprit, qui paraît dans la partie journal de la revue, s'intitule « Crise du protestantisme allemand » et paraît en novembre 1933. Les nazis, donc, sont au pouvoir depuis janvier. Comme Lévinas, mais d'une toute autre façon, Cavaillès a vu immédiatement tout le danger de ce qu'il appelle, dans une lettre à sa sœur, la bande d'Hitler. Il a d'ailleurs été écouté Hitler dans une brasserie en 1931, et il commande de manière assez bizarre en disant qu'il lui trouve une tête de professeur de gymnastique. Bon, c'est pas très gentil pour le professeur de gymnastique, mais voilà. Mais donc Cavaillès essaye de sonder, de comprendre ce qui fait le succès de ceux qu'il présente, je cite encore, comme des démagogues fascistes, notamment auprès de la jeunesse. Certes, plus que Lévinas, il met en avant des facteurs sociaux et économiques, il relève, ainsi que, comme Mussolini, les nazis prétendent avoir un programme social avancé. Les paysans, très touchés par la crise économique, votent en masse pour eux. Ça, c'est toujours dans une lettre à Gabriel Ferrière, sa sœur. Dans un autre article de 1932 sur l'Allemagne, il écrit « Pour le peuple, tout se tient, défaite, réparation, chômage. Il, le peuple, distingue mal souffrances matérielles et morales. » Mais Cavaillès s'interroge aussi sur le rapport du nazisme, tout à la fois à un paganisme germanique invoqué et au christianisme. Et il s'interroge bien sûr sur l'attitude des chrétiens, et d'abord des différentes églises ou courants protestants à son égard. J'ai été frappé à ce propos par le fait qu'il évoque dans cet article un ouvrage de Wilhelm Stapel, que je n'avais vu jusqu'alors évoqué que dans les études sur la théologie politique de Carl Schmitt, Der christliche Staatsmann, une théologie du nationalisme. Il y a des gens qui écrivaient des théologies du nationalisme à ce moment-là, bien sûr. Cavaillès ne l'évoque pas en détail, mais c'est un ouvrage qui tente de dissocier complètement le christianisme du judaïsme, y compris en expulsant du christianisme un contenu jugé comme une pièce rapportée juive, à savoir le Sermon sur la montagne. Le Sermon sur la montagne est censé être une pièce juive dans le christianisme. Cavaillès évoque aussi les conflits internes au monde protestant allemand. Il cite avec approbation la fameuse déclaration de Karl Barth dans son article manifeste Theologische Existenz heute, selon laquelle, je cite Barth, « Cette doctrine, donc la doctrine nazie, ne peut trouver droit de cité dans l'église évangélique. Je tiens, ajoutait Karl Barth, qu'il vaudrait mieux pour les églises évangéliques retourner aux catacombes que de conclure même de loin une alliance avec cette doctrine. Je tiens ceux qui l'ont adoptée pour séducteur ou séduit. » Fameuse déclaration de Karl Barth. Néanmoins, Cavaillès note que cette prise de position courageuse et lucide est bien isolée et souligne le fait que l'hérésie fulminée par Barth, ce sont les termes de Cavaillès, l'hérésie fulminée par Barth a reçu l'approbation des masses et qu'elle régnera peut-être bientôt en maîtresse sur l'Allemagne protestante. Cavaillès pointe également une sorte de captation d'un esprit de détournement de ce qui avait pu s'exprimer sur un mode politiquement beaucoup plus indéterminé dans la Jugendbewegung, dans le mouvement de jeunesse allemand, qui avait été un phénomène marquant de l'Allemagne des premières décennies du XXe siècle. On remarque l'écho très net avec l'analyse de Lévinas sur l'attrait dans la jeunesse allemande des discours et des partis extrémistes qui exalte la vie et l'âme allemande contre la plate raison universelle. Et Cavaillès parle d'ailleurs, en 32, des grands mouvements à coloris extrémistes. Néanmoins, comme le souligne Jacques Bouvresse dans une conférence sur Carnap, Cavaillès, le mouvement de jeunesse allemand et la montée du nazisme, donnée ici même il y a quelques années, la Jugendbewegung était au départ une sorte d'affirmation de soi de la jeunesse, dans sa puissance de rupture, de novation, sur un mode qu'un Carnap, lui aussi présent à Davos comme auditeur, aux côtés de Cavaillès et de Lévinas, avait pu épouser avant la guerre de 14. Carnap était alors très engagé à gauche, membre d'une branche dissidente du parti social-démocrate allemand, qui cesse de soutenir la guerre en 1917, et Carnap avait d'ailleurs été arrêté suite à la diffusion d'articles contre la guerre. Et on voit donc qu'en 1932, Cavaillès conservait une part de sympathie pour un mouvement dont il rappelle les tendances pacifistes face à la Première Guerre mondiale, aussi bien que le caractère disparate et parfois confus, mêlant exaltation de l'élan vital, nietzschéisme, louange d'Eros, critique de la culture et de l'hypocrisie bourgeoise, etc. Donc on peut y voir quelque chose comme une sorte de contre-culture juvénile, juvéniliste, qui a pu prendre des formes et des débouchés multiples au XXe siècle, et peut-être jusqu'aujourd'hui. En conclusion, on voit que l'année de 1932 est une année de seuil, un moment où les choses sont encore un peu ouvertes, avant que le nazisme n'oblige à comprendre autrement Heidegger, après son discours du rectorat notamment, aussi bien que le mouvement de jeunesse allemand, de manifestation de la culture allemande qui avait impressionné positivement Lévinas et Cavaillès. Certes, ils sentaient d'emblée certaines potentialités inquiétantes, mais il était encore possible aussi de les saisir dans leur force propre, puissance philosophique de Sein und Zeit, puissance transformatrice ou révolutionnaire du mouvement de jeunesse. Donc Cavaillès rappelait en ouverture de son article de 1932 que Thomas Mann l'avait évoqué dans ces termes la même année: le mouvement de jeunesse fut une véritable révolution morale, un bouleversement de nos mœurs aussi bien pour le dedans que pour le dehors, une des principales forces qui ont changé le visage de l'Allemagne. À ce mouvement revenait alors, selon Thomas Mann, d'avoir reconnu, je cite, la jeunesse en tant que forme de vie autonome et douée d'une valeur propre. Mais ce qui était encore possible en 32 ne le sera bientôt plus. Reprenant son article de 32 sur Heidegger après-guerre, Lévinas en supprime le premier paragraphe trop dithyrambique. Et en 39, Léon Brunswick écrit ceci à Cavaillès: à ce moment, il y avait une Allemagne avec une façade quasi ou pseudo-philosophique. Nous pouvions discuter la culture. Aujourd'hui, c'est bien la force brutale, la catastrophe de chemin de fer, comme vous dites, à laquelle il faut faire face. Quelque temps plus tard, Cavaillès s'engagera dans la résistance et deviendra cette figure mythique, l'agrégé du sabotage, le mathématicien bourré d'explosifs, le philosophe résistant qui continue dans sa cellule peu avant son exécution à rédiger sa discussion de la théorie des ensembles et de la théorie husserlienne de la science, et qui explique à ses interrogateurs allemands qu'en se battant contre eux, il préserve l'héritage d'une autre Allemagne, celle de Kant, de Hegel et de Beethoven.